cet après-midi, je vous invite à contempler certains épisodes des Actes des apôtres pour voir comment ils s'y sont pris pour convertir les apôtres, Saint Paul surtout, mais Saint Pierre aussi, tout simplement en prêchant notre Seigneur, en parlant de notre Seigneur. Rien d'extraordinaire. La parole de la foi, comme dit saint Paul, verbum fidei, la parole de la foi, le langage de la foi, le langage de la vérité, notre Seigneur, sa personne. Regardez les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22-24, un jour de la Pentecôte, premier discours de saint Pierre, enfant d'Israël. Écoutez ces paroles de Jésus, ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage pour vous par les prodiges, les miracles et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme ayant été livré, je savais bien ce que ça voulait dire, c'est eux qui l'avaient livré, hein, ayant été livré selon les desseins immuables de la préscience de Dieu, vous l'avez attaché à la croix et mis à mort par la main des impies. Voilà le discours de saint Pierre. Ce qu'on appelle en latin une captatio benevolentiae. Hein, rendre l'auditeur favorable. Ben, c'est pas ça. Voyez. Ils ne sont pas pris par quatre chemins. Vous l'avez crucifié. Ah, donc, voilà ce que dit saint Pierre. Et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. Voilà. Et alors, les résultats de cette prédication, chapitre 33, verset 33-36, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Donc celui que vous avez attaché à la croix, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Et maintenant qu'il a été élevé au ciel par la droite de Dieu et qu'il a reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu cet esprit, parce que c'est le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas ? Il a répandu cet esprit que vous voyez et entendez, etc. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Résultat, qu'est-ce que ça va être ? Un langage un peu choquant. Le cœur transpercé par ce discours, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous voyez par conséquent, chers amis, l'effet merveilleux de la parole de vérité sans compromission, sans ménagement, on pourrait dire, qui bouscule les auditeurs, vous l'avez crucifié, et les voilà complètement, le cœur déchiré, repentant. Écoutez, voilà le chemin, voilà ce qu'il faut faire. Et tout au long des Actes des Apôtres, vous avez cette manière de faire, les fruits, la parole de vérité. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ceux qui reçurent la parole de Pierre, parce que tous n'ont pas accepté, hein, mais ceux qui reçurent la parole de Pierre furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta de 3000 personnes environ. Voilà, le premier discours, le jour de la Pentecôte, les 3000 qui sont baptisés d'un seul coup. Alors, nous manquons de foi. Nous manquons de foi dans la parole de vérité. Manquons de foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi qui opère des miracles. Vous connaissez ce deuxième épisode que je vais vous raconter, la guérison du mendiant de la belle porte à Jérusalem. Donc, une des portes de la ville, la belle porte, il y avait assis un mendiant. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à la 9e heure. Or, il y avait un homme boiteux de naissance qui se faisait transporter. Et on le posait chaque jour près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il pût demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, ayant vu Pierre et Jean qui allaient y entrer, demanda l'aumône. Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, une pièce. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il l'aida à se lever. Au même instant, ses jambes et ses pieds devinrent fermes et d'un bond, il fut debout, il se mit à marcher, puis il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Bien. Merveille. Et la joie de ce brave mendiant guéri. Alors évidemment, c'est l'attroupement, la surprise, le scandale, qu'est-ce qui se passe? Ce mendiant, est-ce bien lui qui mendiait chaque jour à la belle porte? Oui, c'est lui. Et le deuxième discours de Saint-Pierre, en somme. Deuxième discours de Saint-Pierre, verset 12. Voyant cela, Pierre dit au peuple, « Enfants d'Israël, pourquoi vous êtes étonnés de cela? Et pourquoi tenez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était de notre propre puissance, ou par notre piété que nous puissions faire marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. » Voilà, immédiat, hein, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce miracle, ce n'est pas nous. C'est Jésus-Christ que vous avez livré et renié devant Pilate. Vous avez renié le saint et le juste. Des paroles dures. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez sollicité la grâce d'un meurtrier, Barabbas. Vous avez fait mourir l'auteur de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. C'est à cause de la foi reçue de lui, c'est à cause de la foi en lui, que son nom a raffermi l'homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi qui vient de lui qui a opéré devant vous toute cette parfaite guérison. Vous voyez la force de Saint-Pierre qui ne prend aucun ménagement vis-à-vis des Juifs qui sont évidemment plutôt opposés, évidemment. Et alors, pendant que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les prêtres, le capitaine du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Voilà les épreuves qu'ont dû subir les apôtres dès le deuxième jour. En prison. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu ce discours crurent. Voilà. Les apôtres étaient en prison, mais beaucoup avaient cru. Combien ? Le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc 3000 le premier jour, 5000 le second jour. Parce qu'ils avaient simplement dit la vérité sur notre Seigneur. Voilà. Le fruit de la prédication de Saint-Pierre. Et alors ensuite, Saint-Pierre et Saint-Jean, le lendemain, on les sort de prison et ils comparaissent devant le Sanhédrin, comme notre Seigneur Jésus-Christ, quelques jours avant, quelques semaines auparavant. Et que va dire Saint-Pierre devant le Sanhédrin? C'est toujours le chapitre 4, verset 8. Comment est-ce qu'il va s'en tirer pour sortir de prison? C'est un peu cela que nous dirions, nous autres. Mais il ne s'est pas du tout préoccupé de cela, Saint-Pierre. Ce n'était pas le problème, sortir de prison. Le problème, c'était de profiter de l'occasion pour les convertir. Voilà. C'était ça son problème à Saint-Pierre. Donc les voilà sortis de prison avec les chaînes. Et que dit Saint-Pierre? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, si l'on nous interroge aujourd'hui sur ce bienfait accordé à un infirme, pour savoir comment cet homme a été guéri, sachez-le bien, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente devant vous pleinement guéri. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs. Il applique là les paroles du prophète. La pierre rejetée par les bâtisseurs deviendra la pierre angulaire. Alors il cite cette parole du prophète, l'appliquant à notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, qui est devenue la pierre angulaire. Et de salut, il n'y en a en aucun autre, car il n'est pas sous le ciel un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Avec assurance, il prêche le nom de Jésus et il reproche aux Juifs, voyez-vous, vous avez rejeté la pierre qui est devenue la pierre d'angle. Lorsqu'ils virent l'assurance de Saint-Pierre et de Saint-Jean, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, ils furent étonnés. Voilà. Mais voyant à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répliquer. Et les en fait sortir du Sanhédrin, ils se mirent à délibérer entre eux, que ferons-nous de ces hommes? Et ils décidèrent de les libérer, en leur interdisant de prêcher le nom de Jésus. C'est ce qui se passe. Défendons-leur avec menace de parler désormais en ce nom-là. Les Juifs ne prononçaient jamais le nom de Jésus. Ils disaient « ne parlez pas de ce nom ». Interdiction de prêcher de Jésus. Alors Pierre et Jean leur répondirent. Ils n'étaient pas encore libérés. Alors, comment ils vont s'en tirer pour être libres? Pas du tout, ce n'est pas le problème. Regardez ce que dit Saint-Pierre. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Alors, il leur fit des menaces et les relâchèrent. Voilà. Vous voyez le courage apostolique de Saint-Pierre, quand même. En prison, pouvant y rester, pouvant être mis à mort, lapidé, vous savez. Et non, pas du tout. Il en profite pour prêcher le nom de notre Seigneur. Alors les fruits de cette fermeté de la foi, de cette parole de vérité, se font sentir très vite dans la première communauté chrétienne. Et immédiatement après, Saint Luc, puisque c'est l'auteur des Actes des Apôtres, nous décrit les grâces qui étaient reçues, qui inondaient la première communauté de Jérusalem. Il dit « La multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Cor unum et anima una. » Voilà. Beau modèle pour nous autres aussi. Okay. Si nous sommes forts dans la foi, si nous avons ce courage de prêcher le nom de Jésus, cette fierté de la foi, je dirais, alors nous recevons des grâces, okay, de charité, d'entente, d'union fraternelle. Il n'y était entre eux que un cœur et une âme. À tel point que nul n'appelait sien ce qu'il possédait, mais tout leur était commun, mais tout leur bien en commun, bien, etc. Mais ce n'est pas tout. Aux Actes, chapitre 5, évidemment, l'évangile se propage, et alors, ils vont être à nouveau saisis et emprisonnés. Chapitre 5, verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble dans le portique, sous le portique de Salomon. Aucune autre personne n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Et chaque jour voyait s'accroître la multitude d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur. » Etc. Cependant, le grand prêtre et ses adhérents s'étaient réunis et assemblèrent le conseil de tous les anciens et les enfants d'Israël. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pleins de jalousie, n'est-ce pas? Ils se levèrent pleins de jalousie, ayant fait arrêter les apôtres, ils le jetèrent dans une prison publique, la deuxième prison de Saint-Pierre et de Saint-Jean. Voilà, en prison, tous les apôtres, en prison. Mais, attention, cette fois-ci, vous savez, la nuit, un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fait sortir en disant, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes ces paroles de vie. » Récidive. Non seulement l'ange les libère, mais il leur dit, « Continuez à prêcher au temple. » Alors, vous voyez la fureur des Juifs, évidemment, qui se réunissent. Et alors, ils ne savaient pas encore qu'ils étaient libérés. Ils envoient ces Sanhédrins, pas au petit jour, le Sanhédrin fait envoyer quelqu'un à la prison pour sortir les apôtres de prison, pour les faire comparaître dans le Sanhédrin. Et puis, les satelliques allèrent, n'est-ce pas, et ils trouvèrent la prison, mais pas les apôtres. La prison était vide. Et ils revinrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison, soigneusement fermée, et les gardes debout devant la porte. » Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Quand le grand prêtre, le commandant du temple et les princes des prêtres eurent entendu ces paroles, ils furent dans une grande perplexité au sujet des prisonniers. Il y a les miracles, les prodiges que le bon Dieu faisait en faveur des apôtres. Et à ce moment-là, quelqu'un vient leur dire, devinez, ceux que vous avez mis en prison, les voilà dans le temple et ils enseignent le peuple. Voilà, avec la naïveté, où est-ce qu'il se passe? Aussitôt le commandant du temple se rend sur place avec ses agents, les amena, les apôtres, sans leur faire violence, car ils craignaient d'être lapidés par le peuple. Il fit comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea, « Nous vous avons expressément défendu d'enseigner ce nom-là. » Vous voyez, Lefèvre, hein, c'est un peu ça, ce nom-là. On n'ose pas en dire le mot, mais c'est ce nom-là. n'en parlez pas surtout. Nous avions interdit de parler de ce nom-là. Et puis vous n'avez pas obéi. Voilà. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, intégriste, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme que nous avions excommunié, etc. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voilà. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur. Ouais. Encore une fois, un discours vraiment pas du tout prudent, selon notre prudence humaine. Ce n'est pas le moyen pour être libéré. Hein? Ce Jésus, vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, et puis non seulement ressuscité, mais il l'a fait asseoir à sa droite dans le ciel. Autrement dit, c'est Dieu. Voilà. Pour les Juifs, c'est évidemment inadmissible. Exaspérés de ce qu'ils entendaient, les membres du conseil étaient d'avis de les faire mourir. Mais vous savez que Gamaliel va intervenir finalement, et il leur explique que non, il ne faut pas les faire mourir, mais que si leur doctrine est de Dieu, ils ne pourront rien contre elle, et que si leur doctrine est des hommes, eh bien, elle va se disperser comme d'autres. Un conseil très sage, très habile. Si leur doctrine est de Dieu, vous ne pourrez rien contre elle. Voilà. Si notre doctrine, chers amis, est de Dieu, si notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en la tradition de l'Église est de Dieu, ils ne pourront rien contre nous. Ils ne peuvent rien. Que ce soit ici ou à Rome ou ailleurs, ils ne peuvent rien. Ne vous occupez plus de ces gens-là, dit Gamaliel, laissez-les aller. Et ils se rendirent à son avis. Ayant rappelé les apôtres, qu'est-ce qu'ils font avant de les libérer? Vous le savez, ils les firent battre de verges. Puis ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Et voyez un peu, hein, il les fait battre de verges. Donc deux fois en prison, et maintenant flagelle-les. Voilà les premiers chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils pensaient alors les apôtres? Réaction des apôtres, après cette humiliation, flagelle-les en plein milieu du Sanhédrin, comme des bandits. Et puis ça fait mal. Les apôtres sortirent du Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Voilà. Le bonheur chrétien. La joie parfaite de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus. Voilà. Les avanies qu'on nous fait. Eh oui, souvent, la joie parfaite. Hein? Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils continuaient, récidives, ils ne cessaient d'annoncer Jésus comme le Christ. Ils ne s'arrêtent pas. Quel exemple pour nous, chers anciens retraitants? Alors, il faut faire comme cela. Parler de notre Seigneur, parler de saint Ignace, parler du bienfait des retraites, votre propre conversion par les exercices, rendre témoignage de la vérité. Et cette simple parole de vérité toute simple opère des merveilles, mais il faut la manier. Encore un autre épisode que vous connaissez bien, parce qu'il est évidemment très célèbre, c'est le martyr de saint Étienne, le premier diacre. Saint Étienne rempli du Saint-Esprit, au chapitre 6 des Actes des Apôtres. parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples s'augmentait considérablement à Jérusalem. Et une multitude de prêtres, de juifs, obéissaient à la foi. Étienne, donc l'un des premiers diacres qui avait été choisi par les apôtres, Étienne, plein de grâce et de force, alors ça ne manque pas, ça ne nous manque pas, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et alors, il y a des jalousies, et on le dénonce. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Donc le pur mensonge, la pure calomnie, comme ça peut nous arriver. Et ils ameutèrent ainsi tout le peuple, les anciens et les scribes, et tous ensemble se jetèrent sur lui, sur saint Étienne, le saisirent et l'entraînèrent au Sanhédrin. Et ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme-là ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, et contre le pape, contre la loi. » Voilà, c'est ça. C'est la même situation aujourd'hui. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce temple et changera les institutions que Moïse nous a données. Donc, vraiment, les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile, complètement défigurées, manière de défigurer la vérité, pour accuser Étienne. Et comme tous ceux qui siégeaient dans le conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange, resplendissant de force, comme le visage d'un ange. Et le grand prêtre lui demanda, « En est-il bien ainsi ?» Et alors Saint-Étienne commence son discours, que je ne vais pas vous lire, mais seulement la fin, parce qu'elle est belle, la fin du discours de Saint-Étienne. À la tête dure. Voilà la conclusion du discours de Saint-Étienne. Quand même, il aurait pu être plus doux. Quand même, il faut s'y prendre un peu plus habilement pour conquérir des âmes, pour s'attirer à la bienveillance des grands prêtres, quand même. Homme à la tête dure, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Quels prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, le prophète Jérémie. Et vous, aujourd'hui, vous l'avez trahi et mis à mort. Voilà, vous avez trahi Jésus, le Christ, vous l'avez mis à mort. Vous qui avez reçu la loi, en considération des anges qui vous l'intimaient, vous ne l'avez pas gardé. En entendant ces paroles, la rage déchirait leur cœur, vous comprenez bien. Et ils grinçaient des dents contre lui. Réellement, grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, ayant fixé les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de son Père, il dit, « Voici que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Le Fils de l'homme, il comprenait bien, c'était Jésus, debout à la droite de Dieu. Ah, il ne pouvait pas en supporter davantage. Les Juifs poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles, voyez, pour ne pas entendre la vérité. ils se bouchaient les oreilles. Ah, quelquefois, il y a des endurcis. Et c'était là, ce jour-là. Et ils se jetèrent tout ensemble sur lui, la mêlée générale. Et l'ayant entraîné hors de la ville, ils le lapidèrent. Donc le supplice de la lapidation. Chacun lance des pierres. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Saül, le futur saint Paul. Mais pendant qu'il le lapidait, Étienne priait en disant, « Seigneur Jésus, recevez mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur imputez pas ce péché. » Après cette parole, il s'endormit dans le Seigneur. Vous voyez ici la force de saint Étienne, mais évidemment l'endurcissement des auditeurs. Et ça, c'est terrible. C'est pénible pour nous. Mais ça arrive toujours. Il y en aura toujours qui s'endurciront. Et il y en aura aussi toujours qui écouteront. Si vous avez encore un peu de temps, je peux vous montrer ça. D'après d'autres passages des Actes des Apôtres, où l'on voit l'auditoire partagé. Les uns qui accueillent la parole, d'autres qui la refuse, bien sûr. Bon, vous avez donc la conversion de saint Paul. Et on peut dire que l'Esprit Saint est passé de saint Étienne dans ce jeune homme qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient le premier martyr. Voyez comment le sang des martyrs est semence de chrétiens. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Saint Étienne a mérité, par son martyr, la conversion de saint Paul, et donc que surgisse un apôtre encore plus puissant en parole que saint Étienne lui-même. Donc c'est la conversion de saint Paul sur le chemin de Damas. Et là, je vous lirai simplement un des récits, parce que saint Paul en a fait plusieurs, le récit qu'il fit au chapitre 26e devant le proconsul, chapitre 26, où nous est raconté non seulement sa conversion, mais sa vocation d'apôtre et sa mission. Il reçoit à la fois la foi et la vocation d'apôtre, au même moment. Actes des Apôtres, chapitre 26. Verset 9. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem, dit saint Paul. Il avoue qu'il a persécuté les chrétiens. J'ai fait enfermer dans les prisons un grand nombre de saints. Donc, il raconte ça après sa conversion. Rétrospective sur sa conversion. Je faisais enfermer en prison un grand nombre de saints. Et ayant reçu le pouvoir des princes des prêtres, et quand on les mettait à mort, j'y donnais mon suffrage. Souvent, parcourant toutes les synagogues et sévissant contre eux, je les ai forcés à blasphémer. Il avait fait renier à certains chrétiens la foi chrétienne. Terrible ça. Et ma fureur allant toujours croissant, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères, en dehors de Judée. Comme j'allais ainsi à Damas, avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres, vers le milieu du jour, je vis sur le chemin une lumière venant du ciel, plus éclatante que celle du soleil, qui resplendit autour de moi et de mes compagnons. Nous tombâmes tous à terre, et j'entendis une voix qui me disait, en langue hébraïque, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dur de regimber contre l'aiguillon.
Qui êtes-vous, Seigneur ?
M'écriai-je. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, tiens-toi ferme sur tes pieds, car je t'ai apparu afin, et notre Seigneur lui donne sa mission. C'est extraordinaire. Avec la grâce de la conversion, il lui donne sa mission. Je t'ai apparu afin de te constituer ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Saint Paul recevra de nouvelles révélations du Christ. Je t'ai tiré du milieu de ce peuple et des gentils auxquels maintenant je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Voilà la description de la mission de saint Paul. Écoutez bien. J'envoie donc parmi les païens, les gentils sont les païens, ceux qui ne croient pas, hein, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan, et qu'ainsi, par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et l'héritage avec les saints. Voilà la mission de saint Paul, d'arracher des ténèbres les âmes pour les conduire à la lumière par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils reçoivent la rémission des péchés et reçoivent l'héritage parmi les saints. Mais n'est-ce pas, mes chers messieurs, tout l'itinéraire spirituel de saint Ignace, cela ? Sortir des ténèbres, du péché, ou de l'indifférence, ou de l'incroyance, dans la lumière, par la foi en Jésus-Christ, dans sa divinité, recevoir la rémission des péchés, la confession générale, et avoir ainsi l'héritage parmi les saints. Le progrès spirituel, la sanctification. Voilà votre mission à vous aussi, d'attirer d'autres à cet itinéraire spirituel de conversion et de sanctification. Alors bien sûr, on dirait, oui, mais ça ne réussit pas toujours. Je sais bien, la preuve, saint Paul et saint Barnabé, dans leur premier voyage, qui arrivent, bon, je saute quelques chapitres, qui arrivent en Asie mineure, à Antioche de Pisidie, la grande ville du centre de l'Asie mineure. Chapitre 13 des Actes des Apôtres. Alors quand même, il faut regarder cela. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, bien. Alors, envoyés donc par le Saint-Esprit, Saul et Barnabé se rendirent, 13 et 6, voilà. Paul et ses compagnons, ayant fait voile à Paphos, se rendirent à Pergé en Pamphylie, et puis ils arrivent à Antioche de Pisidie. Et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoya dire, « Eh bien, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Ça se faisait. On invitait les voyageurs qui venaient d'arriver dans la synagogue, les juifs, à adresser quelques paroles au peuple. Paul en profite, bien entendu. Ayant fait signe de la main, il dit, « Enfants d'Israël, et vous tous qui craignez Dieu, écoutez !» etc. Donc un long discours, n'est-ce pas, où il présente la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Les habitants de Jérusalem et leurs magistrats, ayant méconnu Jésus et les oracles des prophètes, sans avoir rien trouvé qui mérite à la mort, ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et Dieu l'a ressuscité. Donc, il explique tout cela en détail aux Juifs. Sachez-le donc, conclusion, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et de toutes les souillures dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse. Quiconque croit en est justifié par lui. Et ensuite, un avertissement sévère aux Juifs de la synagogue. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, homme dédaigneux, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vous, en vos jours, une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Et alors, à ce moment-là, eh bien, ils commencent à discuter en dehors de la synagogue, les uns pour, les autres contre. Ça discutait ferme. Et le sabbat suivant, toute la ville était dans la synagogue, non seulement des Juifs, mais il y avait même des païens, pour entendre la parole de Dieu, nous dit Saint-Luc, pour entendre la parole de Dieu. Voilà. Et donc il y avait des païens. Alors les Juifs, voyant tout ce concours de peuple, furent remplis de jalousie. Il y a des païens qui viennent pour entendre la parole de Dieu. Ah, inadmissible, des païens. Donc furent remplis de jalousie, et en blasphémant, ils contredirent tout ce que disait Paul. Voilà, la résistance à la parole de Dieu, hein, que nous voyons souvent. Alors Paul et Barnabé dirent avec assurance, c'est à vous les premiers que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez maintenant, vous les Juifs, et que vous-même vous vous jugez indignes de la vie éternelle, voici que nous nous tournons vers les gentils. Vous vous jugez indigne de la vie éternelle. Voyez, ceux qui refusent la lumière. Voilà. Alors nous nous tournons vers les gentils, vers les païens. Car le Seigneur nous l'a ordonné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Comme c'est beau. Le Seigneur avait donné cette mission à saint Paul. Je t'ai choisi pour être la lumière des nations, Lumen Gentium. Lumen ad revelationem Gentium, nous le chantons le 2 février. La lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors résultat, cette prédication, en entendant ces paroles, les gentils se réjouirent, les païens se réjouissaient. Alléluia, oui, l'Évangile nous est annoncé. Et il glorifiait la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. C'est pas beau cela? Tous ceux que dans sa préscience secrète, Dieu destinait au salut, tout cela devenait croyant. Et les autres, hélas, s'endurcissaient. Voyez, le triste usage de la liberté humaine, ceux qui s'endurcissent, mais aussi la puissance, la grâce, la docilité à la grâce divine, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devenaient croyants. Alors j'en arrive à ma conclusion. Nous autres, nous ne sommes qu'un instrument, une voix. Voilà, vous parlerez, notre Seigneur, vous parlerez des exercices de saint Ignace. Vous raconterez les merveilles de la grâce du Seigneur dans vos âmes. Bien, vous êtes une voix. Mais c'est Dieu qui opère à ce moment-là la grâce. Il faut avoir foi. À ce moment-là, il faut prier la très sainte Vierge. Il faut joindre la prière à la parole. Mais à une parole de foi, une parole courageuse. La prière ne suffit pas. La prière est bonne, est nécessaire, indispensable, mais elle ne suffit pas. Il faut encore parler. Une parole de vérité, hardie, claire et nette. Il faut les deux. La prière qui obtient d'amollir les cœurs endurcis, oui, qui obtient la grâce pour soi et pour l'autre, et puis qui dispose peut-être, qui dispose les auditeurs secrètement, oui, la prière, la grâce, et puis la parole qui perce comme le glaive effilé à deux tranchants, qui pénètre jusqu'à la division de la, comme dit saint Paul, hein, qui pénètre jusqu'à la division de l'esprit et du cœur, voilà, et qui déclenche la conversion. La parole. Joignez, chers retraitants, à la prière, la parole. Et ainsi recrutez, soyez apôtres pour saint Ignace, pour notre Seigneur Jésus-Christ.
Récollection des dames, Ride, 6 novembre 2000, Monseigneur Tissier de Malry.
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Nous allons méditer, eh bien, chère dame, sur la volonté de Dieu, ou plutôt sur notre soumission à la volonté de Dieu. Donc voilà le thème de notre récollection. Nous devons être des apôtres. Eh bien, soyons les apôtres de l'exemple, le bon exemple, le devoir d'État, la soumission à la volonté de Dieu. Pour cela, j'utiliserai plusieurs ouvrages. Tout d'abord, un petit opuscule de saint Alphonse de Ligorie, intitulé « La volonté de Dieu ». On peut le trouver encore. « La volonté de Dieu ». Et puis, je vous citerai, à la fin, l'histoire d'une famille, par le père Pia, franciscain, l'histoire des parents de sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Oh, l'une ou l'autre d'entre vous doivent avoir ce livre. Mais il faut le lire et le relire, c'est un trésor. Saint Alphonse dit ceci, ça sera l'introduction à notre récollection, « Toute la sainteté consiste à aimer Dieu. » Là, tout le monde est d'accord. Tout le monde sait que la charité, c'est le lien de la perfection. Que la charité, c'est la plus haute de toutes les vertus. Et que la perfection, ou la sainteté, consiste à aimer Dieu. Tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos forces, tout notre esprit, c'est le premier commandement. Et donc la perfection, la sainteté, oui, toute la sainteté consiste à aimer Dieu. Mais voilà, aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors saint Alphonse précise, et tout l'amour de Dieu consiste à faire sa volonté. Ah, là voilà des choses que l'on ne sait pas, souvent. Ou bien si on le sait, on l'oublie. J'aime bien le bon Dieu, mais aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Ouh là là, ça c'est autre chose. Alors retenons cette maxime de saint Alphonse. Toute la sainteté consiste à aimer Dieu. Et tout l'amour de Dieu consiste à faire sa volonté. Et ainsi, sainte Thérèse d'Avila, la grande sainte Thérèse, nous dit la même chose. Elle est citée par saint Alphonse. Notre conformité au divin vouloir, voilà la perfection. La conformité à la volonté de Dieu. Notre conformité au divin vouloir doit être entière et sans réserve, constante et sans retour. Là est le sommet de la perfection. Conformer notre volonté à la volonté de Dieu, ça, c'est le sommet de la perfection vers lequel nous devons tendre par toutes nos actions, tous nos désirs, tous nos exercices de piété, dit Sainte Thérèse. Et alors, encore une fois, là, c'est Saint Alphonse qui dit cela, à lire les extases et les ravissements de Sainte Thérèse, justement, ou de Saint Philippe de Néry, ou d'autres, certaines âmes de raison se prennent à désirer semblables communications surnaturelles. On voudrait bien avoir les ravissements des grands saints, on voudrait bien avoir même peut-être une apparition de notre Seigneur ou de la Sainte Vierge, quelques lumières spéciales, etc., extérieures. Non. Non, disent les saints, non, ce n'est pas ça, la sainteté. De tels désirs doivent être repoussés, dit Saint Alphonse. Si nous voulons nous sanctifier, nous devons désirer l'union véritable avec Dieu. Voilà, qui ne consiste pas dans les visions, qui consiste dans l'union totale de notre volonté avec celle de Dieu. Alors il cite Sainte Thérèse ici, « Que l'on y prenne garde, dit Sainte Thérèse, la souveraine perfection ne consiste pas dans les consolations intérieures qu'on trouve quelquefois à l'église, à la messe, dans l'oraison. Et ça aide. » Ça aide, ça nous aide, mais ce n'est pas la sainteté. Ni dans les sublimes ravissements. La sainteté consiste à rendre sa volonté si conforme à celle de Dieu, que comprenant qu'une chose est voulue par Dieu, nous nous y attachons aussitôt, de tout notre vouloir. Voilà. Dès qu'on voit, ça c'est la volonté de Dieu, alors je la fais. Cette soumission est parfaite lorsque notre volonté détachée de tout, voilà, ce que saint Ignace appelle, vous le savez bien, le détachement des créatures, lorsque notre volonté est détachée des créatures, et n'ayant d'autre activité que de vouloir ce que Dieu veut, alors quand notre volonté devient une même chose avec la volonté de Dieu. Voilà. Que notre volonté devienne une même chose avec la volonté de Dieu. C'est ça la perfection d'après saint Alphonse et sainte Thérèse d'Avila. Et on pourrait me dire, notre Seigneur est d'accord aussi, excusez-moi. C'est avant tout, c'est la doctrine de notre Seigneur. C'est son enseignement. C'est ce qu'il a enseigné en Galilée, en Judée, c'est ce qu'il a vécu. Nous avons regardé l'exemple de notre Seigneur. Avant de voir l'exemple des saints, il faut quand même regarder l'exemple de notre Seigneur. Notre Seigneur dans l'Évangile disait, en saint Matthieu chapitre 7, « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ça veut dire « Mon Dieu, je vous aime, oui, je vous aime, je vous aime. » Bon, c'est bien, il faut le dire, mais il faut le faire aussi. Voilà. Donc ce ne sont pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux-là, oui, entreront dans le royaume des cieux. Voilà. Donc nous allons le dire dans la prière, on le dit, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite, mon Dieu, je désire » de tout mon cœur, faire votre volonté aujourd'hui. Quand on offre la journée au bon Dieu, bien, on offre sa volonté, hein, bien sûr, à celle de Dieu. Il faut le dire, mais ça ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Sinon, on est semblable aux pharisiens, hein, qui disaient « Seigneur, Seigneur », c'est tout, et qui ne faisaient pas. Et alors notre Seigneur le répète et le dit dans l'Évangile, des magnifiques paroles que nous connaissons, surtout dans l'évangile de saint Jean. Par exemple, saint Jean, chapitre 15, dans le discours après la scène, où il nous parle de la charité envers Dieu, la charité envers le prochain, il explique en quoi consiste le vrai amour de Dieu. Ne pas se payer de mots. Alors, par exemple, je vais vous lire quelques passages de Saint Jean. Vous êtes mes amis. Bon, notre Seigneur dit cela à ses apôtres, mais ça vaut aussi bien pour les chrétiens. Vous êtes mes amis. C'est la charité qui nous fait amis de notre Seigneur. Mais vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et alors vous serez mes amis, encore une fois, si vous faites tout ce que je vous commande. Voilà ce que notre Seigneur demande, pour que nous soyons ses amis. Ça veut dire que nous ayons cette amitié de charité avec lui. Faisons que nous fassions ce qu'il nous demande. Ou encore, dans le même chapitre, au verset 10, un peu plus haut, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi-même j'ai gardé le commandement de mon Père, et comme je demeure dans son amour. Voilà. Alors regardez un peu à quelle perfection notre Seigneur a gardé les commandements de son Père. Et comment intimement il demeure dans l'amour de son Père. Ils sont un seul Dieu. Alors nous devons suivre l'exemple. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comment demeurer vraiment dans l'amour du bon Dieu? Il faut garder ses commandements. Les commandements de Jésus. Si nous voulons vraiment être les vrais amis de notre Seigneur. Puis encore un autre passage que nous connaissons bien. Oui, tout ça nous le connaissons, nous l'avons lu. On lit le dimanche à la messe, souvent dans les évangiles, le dimanche. De même, au chapitre 14, un peu plus haut, verset 23. Si quelqu'un m'aime... Ah, qu'est-ce qu'il va faire alors? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. C'est ou bien. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Commandement, et mon Père l'aimera. Le Père Céleste va vous regarder avec bienveillance, avec amour, comme beaucoup de saints. Et ensuite, nous viendrons à lui. Donc le Père et le Fils, et puis le Saint-Esprit aussi. Et nous ferons en lui notre demeure. Voilà. Si nous voulons que le bon Dieu demeure profondément en nous, alors il faut garder la parole de Jésus, parce que nous aimons notre Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Comme c'est beau. Voilà l'idéal de la vie chrétienne. L'habitation des personnes divines dans notre cœur. Et la condition, c'est de garder la parole de Jésus, de faire sa volonté, la volonté de Dieu. Vous voyez l'enseignement de notre Seigneur. Voilà. Pour être ami de Jésus, il faut garder sa parole. Comment être agréable à Dieu? Comment être agréable à Dieu? Être dans l'amitié divine? Avoir la grâce du bon Dieu? Lui être agréable? Eh bien, c'est de faire suivant sa volonté, comme dit saint Alphonse de Ligorie dans son petit livre La volonté de Dieu, à la page 6. Je vous lis ça. Dieu, sans doute, a pour agréable les mortifications que nous faisons. Dans toute la vie chrétienne, dans toute vie chrétienne, il y a des mortifications. Bon. Les mortifications que nous faisons, que nous imposons, jeûner, faire maigre le vendredi, bon, des choses qui sont un peu, qui sont un peu pénibles quelquefois, bon. Les méditations, c'est très agréable au bon Dieu, les communions, par-dessus tout, les œuvres de charité envers le prochain, mais dans quel cas, demande Saint Alphonse, quand elles ont pour règle sa volonté. Voilà. Si au contraire, sa volonté divine en est absente, hein, si quelqu'un se répand en œuvre de charité, passe tout son temps en dehors de la maison à visiter ses amis pour le faire du bien, et puis oublie le devoir d'État à la maison, par exemple, alors il n'y a pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, alors, est absente. Vous voyez ? Pourtant, on fait de bonnes œuvres, on fait des mortifications, des œuvres de charité, mais la volonté de Dieu est absente. Alors, c'est peu dire que Dieu ne les agrée pas. Autrement dit, ça veut dire que Dieu ne les agrée pas du tout. Il les a même en abomination, dit saint Alphonse. Oh, quoi ? Des mortifications, des œuvres de charité ? Oui, Dieu peut les avoir en abomination et il les punit même. Pourquoi ? Quand on les fait contre la volonté de Dieu. Quand ce n'est pas le moment, quand ce n'est pas la volonté du bon Dieu. Voilà. Et il donne un exemple. Supposons deux serviteurs. Bien. L'un est en mouvement toute la journée, sans un moment de répit. Mais il ne veut faire qu'à sa tête. Voilà. Et l'autre se donne moins de peine, mais obéit en tout. Lequel des deux plaira au maître ? Évidemment, le second. Et non pas le premier. En quoi donc nos œuvres servent-elles à la gloire de Dieu si elles ne sont pas conformes à son bon plaisir ? C'est pourquoi il faut chercher toujours ce qui plaît à Dieu, sa volonté. Ce ne sont pas les sacrifices que Dieu réclame, dit le prophète à Saül dans l'Ancien Testament, mais l'exécution de sa volonté. Alors il cite un beau passage de l'Ancien Testament. Est-ce que le Seigneur se plaît dans les holocaustes ou dans les sacrifices et les immolations de boucs, de béliers, d'agneaux dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est ça qui fait vraiment plaisir au Seigneur et non pas plutôt l'obéissance à sa voix, c'est-à-dire l'immolation de notre volonté, voyez? La résistance est comme le crime d'idolâtrie. Et il conclut, saint Alphonse, l'homme qui prétend suivre sa propre volonté sans s'occuper de celle de Dieu commet une sorte d'idolâtrie. Car au lieu d'adorer la volonté divine, c'est la sienne qu'il adore. Voilà. Alors il faut prendre garde, eh bien, chère dame, de ne pas adorer notre volonté, mais de tout rechercher, bien sûr, la volonté de Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, ce n'est pas les holocaustes, les sacrifices, c'est d'abord sa volonté, que nous fassions sa volonté. À quoi vont les grandes et les nombreuses œuvres, les bonnes œuvres, si elles n'ont pas pour règle sa volonté? C'est ce que demande, c'est ce que se demande Don Vital Le Haudet. C'était un moine trappiste. Dans son livre, très beau, qui s'appelle « Le Saint Abandon ». Il enseigne le Saint Abandon, c'est-à-dire l'abandon à la volonté de Dieu. L'âme va se remettre totalement dans la volonté du bon Dieu. Que ce soit la volonté du bon Dieu signifiée par le devoir d'État, ou la volonté de Dieu de bon plaisir signifiée par les épreuves, la maladie, les accidents, les choses brusque, imprévu, peu importe. Autrement dit, le programme du devoir d'État ou l'imprévu des épreuves, que ce soit l'un ou l'autre, il enseigne l'abandon, le saint abandon à la volonté de Dieu. Et alors il dit ceci, à quoi vont les grandes œuvres, les très grandes œuvres entreprises pour le bon Dieu, si ce n'est pas selon la règle de sa volonté? Je vous cite le passage. Notre sanctification, notre salut même, est donc une œuvre à deux.
Ah, c'est très bien dit. Voyez,
une œuvre à deux. Moi et le bon Dieu, les deux. Je ne peux pas me sanctifier tout seul. C'est une œuvre à deux. Moi et Dieu. Il faut de toute nécessité l'action de Dieu et notre coopération. L'action de Dieu, donc la volonté de Dieu, et puis notre coopération, notre oui, notre obéissance, notre docilité. Il faut l'accord incessant de la volonté divine et de la nôtre. Et alors, qui travaille avec Dieu profite à chaque instant. Qui au contraire s'écarte de Dieu tombe, ou bien se fatigue dans une stérile agitation. Il est donc d'une suprême importance de ne travailler qu'avec Dieu, chaque jour, à tout moment. Donc, un travail à deux, retenons l'expression, pour devenir un saint, pour atteindre la vraie charité, le sommet de la charité, de la perfection, c'est un travail à deux, Dieu et moi. Dieu qui commande, moi qui obéis. Dieu qui a l'initiative et moi qui suis. Dieu qui m'indique par sa divine providence le chemin et moi qui suis docile aux indications de sa providence. Dieu qui demande mon devoir d'État, d'abord, avant tout, et moi qui fais mon devoir d'État pour lui obéir. Un travail à deux. Une autre idée, si vous voulez, pour nous faire bien comprendre la volonté de Dieu, la gloire de Dieu. Ah, c'est encore une autre idée. Comment réaliser la gloire de Dieu? Saint Ignace nous dit, nous sommes faits pour la gloire de Dieu. L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, et par là, sauver son âme. Donc pour louer, honorer Dieu. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Pour louer et honorer Dieu. Autrement dit, pour procurer la gloire extérieure de Dieu, qui lui revient de la part des créatures. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Pour procurer la plus grande gloire de Dieu, comme disait saint Ignace, vous savez, c'est la devise des jésuites, ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Alors comment faire? Eh bien, accomplir sa sainte volonté, c'est tout. C'est ce qu'enseigne saint Ignace dans ses exercices. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même montre dans l'Évangile. Et c'est là que j'en viens, si vous voulez, à l'exemple de notre Seigneur. Non pas seulement ses paroles, mais son exemple, ce qu'il a fait. Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, je vous lis. On parle de notre Seigneur, chapitre 5, verset 7. Notre Seigneur qui entre dans le monde, donc encore dans le sein virginal de la très sainte Vierge Marie, à peine créée, son âme humaine à peine créée, à peine assumée par le Verbe, par la personne divine, dans le sein virginal de Marie. Quel est le premier mouvement de l'âme de Jésus? Dans son âme humaine qui vient sortir des mains du Créateur, qui est unie à la personne divine. Quel est le premier mouvement de son âme? Eh bien, c'est saint Paul qui nous le dit. Notre Seigneur ne l'a pas dit, n'a pas révélé son secret, seulement à saint Paul. Et saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7. En effet, ce n'est pas ça, mais ça ne fait rien. C'est une citation. Il dit, « Je suis venu, ô Père, pour faire votre volonté. » Voilà. Il est écrit de moi au rouleau du livre, l'Ancien Testament, « Vous n'avez plus agréé ni les sacrifices ni les holocaustes, mais vous m'avez donné un corps, autrement dit pour souffrir, pour mourir, vous m'avez donné un corps. Alors j'ai dit, « Me voilà, me voici, ô Père, pour faire votre volonté. » Le premier mouvement de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier mouvement de son cœur sacré.
Me voici, ô Père, pour faire votre volonté. Voilà. Un acte de soumission à la volonté de son Père. C'est extraordinaire. Et c'est ça qui fait les saints. Sainte Thérèse l'enfant Jésus, dès sa petite enfance, il n'a visé qu'à cela, faire plaisir au bon Dieu. C'était ses saintes sœurs, qui étaient plus grandes qu'elle, qui lui avaient infusé cette devise. Faire plaisir au bon Dieu. Et tout, donc elle était un bébé, enfant, jeune fille, elle pratiquait cela, faire plaisir au bon Dieu. Une manière enfantine de décrire une réalité profonde. Ce que notre Seigneur lui-même a fait dès le début. Je viens, ô Père, faire votre volonté. Et également, donc, dans la citation des Hébreux, un autre chapitre des Hébreux, verset 5, chapitre 7, alors on décrit donc là l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, quand notre Seigneur a dit, Père, s'il se peut que ce calice s'éloigne de moi, voilà, calice de sa passion, la crucifixion, la flagellation, son sang répandu, hélas, en vain pour beaucoup, tout cela évidemment effraie notre Seigneur, l'écrase, et alors il dit, Père, que ce calice s'éloigne de moi, mais aussitôt, il dit, mais non pas comme je veux, mais comme vous voulez, que votre volonté soit faite. Voilà. La soumission à la volonté de Dieu devant l'amertume du sacrifice. Et alors saint Paul le dit dans l'Épître aux Hébreux, c'est lui qui, au jour de sa chair, donc au jour où il a été éprouvé, où il a dû souffrir dans sa chair, donc pendant sa passion, au jour de sa chair, ayant avec de grands cris et des larmes offert des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc la prière de Jésus au jardin des Oliviers, avec de grands cris et des larmes, dit saint Paul. Priant celui qui pouvait le sauver de la mort. Voilà notre Seigneur, en quel état il est réduit, mais il se redresse, avec toute la plénitude de la grâce dont il est plein. Et alors, il a été exaucé à cause de sa piété, de sa soumission. Il a dit immédiatement, Amen, mon Père, non pas ma volonté, mais que votre volonté soit faite. Il a été exaucé. Cet acte de piété, de soumission, la volonté de Dieu a été exaucée. Il a sauvé le monde. Voilà. Donc l'exemple de notre Seigneur, il n'a qu'un seul désir, faire la volonté de son Père, aussi amer que soit le calice. Vous avez aussi d'autres passages dans l'Évangile où notre Seigneur montre cette volonté de faire la volonté du bon Dieu. Quand il dit, par exemple, en Saint Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voilà. C'est l'épisode avec la Samaritaine. Alors les apôtres viennent de la ville avec des provisions. Ils ont acheté de la nourriture. Notre Seigneur est affaibli, assoiffé, affamé. Alors il leur dit, c'est maître, mangez. Maintenant nous avons apporté des provisions. Maître, mangez. C'est le moment, on va pique-niquer ensemble. Quelle n'est pas la déconvenue des apôtres quand notre Seigneur dit non. Ma nourriture, c'est pas celle-là. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et son œuvre, ce jour-là, c'était de convertir la masse samaritaine. Il était tout entier à sa mission pour convertir cette pécheresse. Bien. Tout absorbé dans son devoir d'État, il ne pensait même plus à manger. Comme c'est beau. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Nous pouvons dire cela à chacun à notre place, notre petite mission, notre petit devoir d'État, ne serait-ce que de préparer la nourriture à la famille, tout simplement. C'est notre devoir d'État, accomplir mon œuvre. C'est ça notre nourriture, c'est ça notre joie, même si ce n'est pas agréable souvent, même si c'est un peu monotone, faire la même chose tous les jours à la même heure, ça paraît monotone, ça lasse, mais non, 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 disons cela avec Jésus. Voilà, disons cela avec Jésus, ma nourriture est de faire sa volonté, la volonté du bon Dieu, et d'accomplir son œuvre, des choses toutes simples, des gestes tout simples, mais le faire par obéissance. Ou encore un autre passage, l'évangile de Saint Jean, toujours. Ça, c'est alors au moment où, après la scène, notre Seigneur ouvre son cœur à ses apôtres, et puis Judas est parti, n'est-ce pas? Et puis il continue à révéler ses derniers secrets, et juste au moment alors où ils vont partir au jardin des Oliviers pour sa passion, que dit Jésus? La dernière parole avant de partir pour franchir le torrent du Cédron, n'est-ce pas? Saint Jean nous le dit. Notre Seigneur dit ceci: afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis selon le commandement que mon Père m'a donné. Levons-nous, partons d'ici. Voilà. Ça veut dire, allons maintenant à ma passion. Voilà. Et la preuve d'amour qu'il va donner, la preuve qu'il aime son Père, afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis selon le commandement qu'il m'a donné, la charité, l'obéissance. Alors qu'est-ce que c'est? Le sacrifice, voilà, c'est l'égalité, hein? L'équation, charité égale obéissance, égale sacrifice. Voilà ce que notre Seigneur a vécu. Voilà notre petite place à nous, à la maison, hein? Ou bien avec nos amis, avec les personnes avec lesquelles nous avons des relations, c'est toujours cela, hein? La charité, l'amour du bon Dieu, sa volonté, et alors le sacrifice, s'il le faut. Afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis toujours selon le commandement de mon Père, levons-nous, sortons d'ici. Donc là, l'exemple de notre Seigneur. Voilà. L'exemple du sacrifice par obéissance, par amour. Alors, la petite Thérèse d'Enfant Jésus, bon, elle a fait des œuvres plus simples, plus humbles, petites œuvres de petits détails tous les jours dans son couvent, hein. Mais c'était le même esprit, faire plaisir au bon Dieu, lancer des roses, lancer des fleurs à Jésus, hein. Vivre dans un acte d'amour, dit-elle, voilà, soumission à la volonté de Dieu, acceptation de la volonté de Dieu, aussi monotone qu'elle soit, dans un monastère, vous voyez, enfermé, surtout les religieuses cloîtrées. Aussi monotone que ça soit, aussi lassant peut-être, ça ne fait rien. Voilà. J'aime mon Père, j'agis selon son commandement. Alors, c'est très bien. Je suis heureuse. Les saints n'ont jamais eu d'autre but. Les grands saints, comme les petits saints, les saints canonisés, comme les saints qui ne sont pas qu'à canoniser, n'ont jamais eu d'autre but, accomplir la volonté de Dieu. Monseigneur Lefebvre, c'est pas un saint canonisé, bon. Enfin nous l'avons connu, mais qu'est-ce qu'il a voulu toute sa vie, surtout quand il a fondé Écône? Est-ce qu'il a voulu de volonté personnelle, je veux fonder un séminaire, pensez-vous? Pas du tout. C'est nous autres, les séminaristes, qui l'ont poussé. Monseigneur, faites quelque chose pour nous. Voilà. Eh oui, il nous a dit souvent, je n'ai fait que suivre la providence. Mais oui. Donc la volonté de Dieu. Hein. Arrivé à l'âge de la retraite, il pouvait maintenant prendre un bon repos à Rome. Tranquille. Avec une petite pension, petite retraite pour vivoter. Vous pouvez se dire, maintenant j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai été évêque, j'ai été délégué apostolique, ça va bien, maintenant je prends du bon temps. Pas du tout. Il a suivi la volonté de Dieu, hein, que lui signifiait la providence divine. Mais tous les saints ont voulu faire comme cela, tous les grands chrétiens, je ne dis pas canonisés, mais bien sûr les saints. Par exemple, bon, ce sont des exemples, le bienheureux Henri Suzeau, qui était un dominicain très mortifié, comme vous le savez. Il disait simplement ceci: Dieu ne nous demande pas de chercher à avoir de grandes lumières. Ce qu'il veut, c'est notre soumission totale à sa volonté. Alors si c'est mortifié si effroyablement, parce que quand vous lisez sa vie, c'est terrible, eh bien, c'était pour faire la volonté de Dieu. Parce que c'était sa voie, c'était son chemin. Le bon Dieu le voulait comme cela. La soumission totale à sa volonté, voilà, et non pas les grandes lumières. Sainte Thérèse d'Avila dit encore la même chose. L'unique prétention de celui qui s'adonne à l'oraison doit être de travailler avec courage à rendre sa volonté conforme à celle de Dieu. Donc, celui qui s'adonne à l'oraison, vous voyez, bien nous autres, tous, puisque vous êtes tous des retraitantes, ou la plupart, des anciennes retraitantes, vous avez appris à faire oraison, avec les exercices de Saint Ignace. Vous savez faire oraison, vous savez méditer, vous le pouvez, et certaines d'entre elles, vous le faites, au moins vous avez pris la résolution de le faire, peut-être même chaque jour, je ne sais pas, quelles sont celles d'entre vous qui ont pris la résolution de faire de méditer chaque jour au moins un quart d'heure, 20 minutes, bon, eh bien, qu'est-ce qu'il faut demander dans l'oraison? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'oraison? Quel est le principal dans l'oraison, dans la méditation? C'est le bouquet final. C'est demander au bon Dieu de faire sa volonté. Et la force, demander la force de faire sa volonté. Voilà. Alors bien sûr, dans l'oraison, vous pouvez recevoir des lumières, des goûts, des consolations, des larmes. C'est très beau, ça nous aide. Mais ce n'est pas le fruit principal. Le fruit principal de l'oraison, c'est de demander, dans le colloque, hein, final surtout, ou bien tout le long de l'oraison, de demander au bon Dieu de rendre ma volonté conforme à la sienne. Voilà le principal de notre oraison. Hein. Si notre oraison est que cela, elle aurait été très réussie. Saint François de Sales disait aussi à peu près la même doctrine. Saint François de Sales dit: la perfection, certains la mettent dans l'austérité des habits, d'autres dans l'austérité du manger, d'autres à faire des aumônes, d'autres à fréquenter les sacrements, d'autres à faire oraison, et tout ça est très bien, d'autres à avoir une contemplation passive et suréminente, ce qui est rare, d'autres en des grâces extraordinaires, etc. Et tous se trompent. Hein, tout ça c'est très bien, mais ils se trompent parce qu'ils mettent la perfection là où elle n'est pas. Pour moi, je ne sais ni ne connais point d'autre perfection que d'aimer Dieu de tout son cœur et le prochain comme soi-même. Et il explique de quoi il s'agit, aimer Dieu de tout son cœur. Il explique que c'est bien sûr faire la volonté de Dieu. De même, dit le père Rodriguez, que l'amour de Dieu est la forme la plus élevée, la plus parfaite de la vertu, une soumission parfaite à la volonté divine est l'expression la plus sublime, la plus pure et la fleur la plus exquise de cet amour. Voilà. La fleur de la charité, c'est la soumission parfaite à la volonté divine. Bon, nous avons vu donc les hommes des saints, Henri Suzeau, Sainte Thérèse d'Avila, bon, les saints anges aussi, les saints anges. Non, c'est difficile de nous représenter la vie des anges. Eh bien, si vous regardez un peu dans la messe des saints anges, la messe votive des saints anges, que l'on peut dire le mardi de chaque semaine, regardez l'introït, la prière d'entrée, et vous verrez, je vous lis, Benedicite Dominum omnes Angelieus, qui facitis voluntate meius, ad audiendam vocem sermonum eius. Bienheureux les saints anges, bienheureux vous les saints anges. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes bienheureux, vous les saints anges? Parce que vous faites sa volonté dans le ciel, afin d'écouter la voix de ses paroles. Les saints anges sont sans cesse à écouter la voix des paroles de Dieu, ce qu'il leur dit de faire, et alors ils sont bien heureux parce qu'ils font sa volonté. Ils passent leur ciel à faire la volonté de Dieu. Dieu les envoie ici, Dieu les envoie là, Dieu leur donne une mission à l'égard de telle personne, Dieu les nomme anges gardiens de tel autre, ils font sa volonté. Voilà. Et c'est ça leur béatitude, ils sont bien heureux. Bien heureux, saints anges, parce que vous faites sa volonté. C'est l'Église qui dit cela. Comme ils sont bien heureux, les saints anges. Nous autres, eh bien, il y avait des résistances. Il y a toujours la nature qui résiste, bien souvent, qui veut nous empêcher de faire la volonté du bon Dieu, qui veut faire notre volonté. Les saints anges, c'est pas comme ça, il n'y a plus de résistance. Ils ne font que la volonté du bon Dieu. Comme ils sont bien heureux, comme nous devons les envier. Ou encore ce que dit le psaume 103 sur les saints anges, Dieu fait de ses esprits ses anges et de ses ministres un feu brûlant, une flamme brûlante. Les esprits, ce sont les saints anges. Alors ces esprits, bienheureux, les sept cœurs des anges, il y en a deux, les anges et les archanges, qui sont spécialement envoyés. Donc Dieu fait de cela des anges, angeli, des envoyés, des missionnaires, envoyés en mission. Donc vous voyez, de ces esprits bienheureux, certains en fait des anges. Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Michel. Prenons l'exemple de Saint Gabriel, qui vient annoncer les plus grandes choses. Bien. Il les envoie en mission. Et ces anges-là ne les trouvent pas misérables, indignes de leur haute sainteté, de venir sur la terre donner des messages aux âmes. Non, ils ne trouvent pas ça indigne de leur dignité, de se rabaisser à venir saluer une petite fille de Galilée, Marie. Ça ne les gêne pas. Au contraire, ils trouvent leur bonheur à s'abaisser devant cette créature, toute pure évidemment. Voilà. Dieu les envoie et ils trouvent ça normal. C'est leur mission. Ils obéissent à la volonté de Dieu. Tout grand, tout élevé qu'il soit, Dieu fait d'eux ses messagers. Et de ses ministres, il fait des flammes brûlantes. La récompense de leur obéissance est une vive charité. Il fait d'eux une flamme brûlante d'amour. Récompense de l'obéissance, c'est la charité. Voilà l'exemple des saints anges. Bon, eh bien, prenons maintenant l'exemple des parents de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Et c'est là-dessus que nous conclurons notre exposé, application. C'est le début de leur vie. Comment ils se sont connus, comment ils se sont mariés. Oh, vous connaissez ça. Mais enfin, c'est bien de le relire. De quel côté porter ses pas? On parle de la maman de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, qui s'appelait Zélie Guérin. Zélie, c'est son prénom. Alors elle se demandait qu'est-ce qu'elle allait devenir. Est-ce qu'elle allait devenir religieuse? Ou bien est-ce qu'elle allait rester dans le monde sans se marier? Ou bien est-ce qu'elle allait au contraire chercher un époux pour fonder peut-être un foyer chrétien? Je ne sais pas. Elle hésitait sur sa voie. De quel côté porter ses pas? Et puis son futur époux, Louis Martin, pareil. Il se demandait ce qu'il allait devenir. Est-ce qu'il allait se marier, ou bien rester vieux garçon, ou enfin célibataire, disons, voilà, ou bien entrer dans les ordres, peut-être. Ah, voilà. Alors, ils se posent tous les deux le même problème. C'est très beau. Alors, Louis Martin, d'abord, le papa, le futur papa, eh bien, il était très pieux. Il avait une profonde formation religieuse, donnée par son père. C'est un militaire très pieux, son père. Si bien que Louis Martin, le fils, avait été formé au culte de la nature. Il aimait contempler la nature du bon Dieu, se retirer dans des endroits solitaires pour penser à Dieu. Et il se disait, eh bien, peut-être que je suis fait pour devenir, qui sait, chartreux, contemplatif. Voilà, il pensait que c'est cela. Il aimait camper sa retraite dans un de ces sites grandioses où le paysage élève le regard vers Dieu. Et alors, il consulta peut-être son directeur de conscience, son confesseur, et le souvenir d'un voyage qu'il avait fait 2 ans plus tôt en Suisse, en Valais, en passant par ici, lui donna l'idée, peut-être que je suis fait pour entrer au Grand Saint-Bernard, chez les chanoines du Grand Saint-Bernard, pour réaliser mon idéal de contemplation là-haut, à 2472 mètres, peut-être que le bon Dieu me donnera la grâce de la contemplation parfaite. Voilà, il voulait un grand idéal, Louis Martin. Il cherchait la volonté de Dieu, avant tout. Alors, il habitait en Normandie. En ce temps-là, les chemins de fer n'étaient pas aussi rapides, il n'y avait pas le TGV. Bon, il prend le train, quand même, et puis il arrive, là, bien, à Martigny, et puis il monte à l'hospice du Grand Saint-Bernard, il frappe à la porte. C'est authentique, c'est historique. Et là, il voit, il rencontre, c'était en 1845, donc, il était très, il y a encore un, je ne sais pas, c'était à l'automne, il y avait un peu de neige, c'était très beau, très romantique, bon. Il y a un peu de romantisme dans sa vocation, et pas parfaitement, nous allons voir justement. Et donc le père prieur le reçut avec bienveillance, ce jeune homme dont le regard était limpide, fervent, un bon jeune homme, et il l'interrogea sur ses raisons, sur les mobiles qui inspiraient sa démarche. Pourquoi est-ce que vous voulez devenir religieux? Il interroge sur sa famille, sur ses antécédents, qu'est-ce que vous avez fait avant, qu'est-ce que vous avez étudié, etc. Et il était édifié par l'attitude de ce jeune homme. Et il s'enquit surtout des études, avez-vous étudié? Et il apprit bien vite que le visiteur n'avait point parcouru le cycle de la formation classique qui était nécessaire.